Chapitre 28, première partie, la vallée du royaume. Qui connaît sa force masculine et pourtant conserve sa douceur féminine est la vallée du royaume. S'il est la vallée du royaume, la vertu constante ne le quittera pas et il retournera dans l'état simple et naturel de l'enfance. Qui connaît sa lumière et pourtant reste dans l'ombre est un exemple pour le royaume. S'il est un exemple pour le royaume, la vertu constante ne lui manquera pas et il retournera dans l'infini. Qui connaît sa gloire et demeure dans l'opprobre est la vallée du royaume. S'il est la vallée du royaume, la vertu constante en lui atteindra la perfection et il retournera dans l'état originel. Dès que l'état simple et originel se répand, les choses se forment. Le sage, s'il fait usage de tout cela, sera sans conteste la tête des travailleurs. Il gouvernera dans la grandeur et n'offensera personne. Quand la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, ne faites pas l'erreur de penser à la personnalité née de la nature. Le véritable homme de race divine est le microcosme, la monade. La personnalité est l'instrument de cet homme, à l'aide duquel il lui est possible d'approcher l'essence de la monade, de connaître et d'accomplir le but et la mission de celle-ci. Lorsqu'ensuite vous apprenez que l'homme est une entité autocréatrice et que sa mission est de se réaliser lui-même, vous comprenez qu'il faut apprendre à considérer la forme humaine apparente d'une manière nouvelle, d'une manière complètement différente de celle à laquelle le monde est habitué. La personnalité humaine s'exprime dans le monde comme homme et comme femme, étant donné que la nature fondamentale de l'homme et de la femme est totalement différente, cela provoqua beaucoup de confusion et de chagrin au cours de la marche du monde vers son nadir. Ce fut en outre la cause d'une forte liaison avec la nature. Dès le début du nadir, l'homme comprit qu'il fallait une parfaite coopération entre les deux sexes. Mais cette coopération, son essence, sa nature et son but, a été jusqu'à ce jour comprise et appliquée de manière très diverse. Dans le nadir, une collaboration réellement étroite, harmonieuse et d'un très haut niveau n'exista jamais en fait entre les deux sexes parce que la vraie nature n'en était pas comprise. C'est pourquoi il y eut aussi bien des époques où les hommes furent traités comme des esclaves que des époques où ce furent les femmes, pour ne pas parler des autres types de relations. Dans la civilisation de l'ancienne Égypte, il y eut une période où l'homme devait promettre obéissance à la femme. Dans la formule classique du mariage figurait cette exigence, tandis que dans les formules religieuses plus tardives, les rôles sont encore une fois inversés. Dans la magie, la coopération entre homme et femme sur un pied de parfaite égalité a toujours été reconnue comme allant de soi. Dans la magie gnostique, c'est une exigence irréfutable, car en fait, rien de bon, rien de libérateur ne peut se faire si cette coopération n'est pas parfaite. Ce n'est pas trop nous éloigner de notre sujet que de citer le grand principe de la coopération des sexes, dont l'absence explique l'horrible condition et l'oppression des êtres humains dans le nadir de la matérialité. En effet, la marche impie de l'humanité a pour cause l'ignorance de la vraie signification de ces deux forces jumelles de la nature humaine. Deux forces, deux courants émanent de la monade, du microcosme. Ces deux courants sont parfaitement égaux l'un à l'autre quant à leur valeur et à leur importance. Ils sont mutuellement dans un rapport positif-négatif au sens ordinaire du terme, mais de polarisation différente chez les monades humaines. Considérées d'une certaine façon, toutes les monades humaines peuvent être divisées en deux grands groupes. Chez l'un, le premier courant de la monade est polarisé positivement. Chez l'autre, c'est le second qui est polarisé positivement. Les deux groupes sont donc parfaitement semblables et pourtant, ils se distinguent nettement l'un de l'autre. Pour désigner cette similitude dans la séparation, nous employons l'expression « semblable mais inversé ». Donc il s'agit d'une polarisation équivalente mais inversée. Vous ne trouverez pas cette expression dans le dictionnaire parce que ce concept est totalement inconnu. Serait-il connu, le monde actuel aurait sans aucun doute un tout autre visage. Outre ces deux courants, les monades humaines sont par ailleurs encore séparés, pour des raisons de rayonnement, en sept groupes, sans pour autant perdre leur égalité. Nous n'aborderons pas ce sujet pour éviter la confusion. Vous voyez clairement que la polarisation équivalente, mais inversée, des deux courants monadiques a pour cause, en particulier, le fait que la forme par laquelle la monade s'exprime dans les différents domaines de la manifestation présente deux types, la forme masculine et la forme féminine. Comme force positive, comme pôle positif, c'est la force masculine qui domine dans l'une, la douceur féminine dans l'autre. Pour éviter tout malentendu, il faut d'abord chercher une explication du sens taoïste des termes force masculine et douceur féminine. Car vous le savez, le monde a aussi ses propres interprétations sur le sujet. Par le concept force, la philosophie gnostique désigne l'état du pouvoir de la monade. La monade dispose d'un puissant pouvoir, d'une série de pouvoirs par lesquels peut s'accomplir le grand plan divin. Le concept douceur désigne la nature intrinsèque de la monade au sens des paroles de Jésus, par exemple « Apprenez de moi que je suis doux de cœur ». La douceur provient de l'amour divin. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, dit le sermon sur la montagne. La monade abrite l'être divin doté d'un double pouvoir, la toute-puissance divine et l'amour divin, la force masculine et la douceur féminine. La toute-puissance, grâce à la polarisation équivalente mais inversée, est représentée exclusivement par le type originel de l'homme. L'amour, pour les mêmes raisons, est représenté par le prototype de la femme. Cela ne veut pas dire naturellement que le pôle opposé de la monade ne soit pas présent dans chacune des personnalités des deux types. Faites abstraction de la forme et du caractère de la manifestation actuelle des deux sexes dans la nature de la mort, ainsi que de toutes les difficultés et problèmes qui en résultent dans la vie des humains, vous voyez alors clairement qu'à l'intérieur de la sphère vitale de chaque entité, la réalisation de soi est absolument possible. En effet, les deux courants monadiques du pouvoir divin et de l'amour divin sont présents dans toute forme humaine. Toutefois, il va de soi que cette réalisation, bien qu'identique dans ses résultats, présentera des développements différents chez les deux sexes en raison de la manière dont se réfléchissent les polarisations différentes de la monade. Cela n'a pas le moindre sens de tenter de décrire l'homme idéal ou la femme idéale. Il n'en existe pas dans le nadir du monde tridimensionnel. Il s'agit seulement de vous faire comprendre, à la façon taoïste, comment chaque monade peut acquérir une personnalité qui soit un instrument idéal. Et comment, grâce à ces instruments parfaits, le règne terrestre et le ciel-terre peuvent réellement répondre au grand but divin. N'oublions surtout pas la parole évangélique selon laquelle ceux qui auront part au royaume des cieux ne prendront ni femme ni mari. Le mariage est purement une situation du nadir terrestre acceptée par la gnose, mais qui n'est pas essentielle pour la vie libératrice. Ce qui est essentiel, c'est le fait que, dans tous les domaines de la matière et de l'esprit, la coopération monadique doit aller de soi. Ne banalisons pas ce fait très important et disons seulement qu'au cours des siècles, toutes les fraternités gnostiques ont propagé à ce sujet des conceptions différant beaucoup de celles de la masse, conceptions et comportements qui leur attirèrent beaucoup de tracas de la part de l'adversaire par incompréhension et calomnie. On suppose que tout cela est bien connu. Le terrain étant ainsi aplani, abordons le chapitre 28 du Tao Te Ching. Qui connaît sa force masculine et pourtant conserve sa douceur féminine et la vallée du royaume? Nous pouvons aussi inverser ce texte. Celle qui connaît sa douceur féminine et applique pourtant sa force masculine et la vallée du royaume. Il y a un pouvoir de la monade et un divin rayonnement d'amour qui, tous deux, émanent de la monade, et vous connaissez cette parole de la première épître aux Corinthiens. Quand je posséderai toutes choses et non l'amour, je n'aurai rien et ne serai rien. L'amour en tant que courant monadique est donc supérieur, car sans cette essence intrinsèque de la monade, le pouvoir ne pourrait se développer. La force divine se manifeste dans le courant de l'amour divin. Nous voyons donc toujours les deux courants monadiques se fondre en un. Par cette unité, la Trinité, le Fils, la filiation divine devient une grande réalité. Si donc vous pouvez inciter les deux courants de la monade à se manifester dans la personnalité, à devenir actifs, la filiation divine apparaît vraiment en vous. La vallée du royaume est une antique expression chinoise pour désigner un vrai chantier alchimique. Tout comme on trouve dans les vallées une terre fertile, donc des habitations humaines, ainsi un élève véritable entrera-t-il dans la vallée, dans le séjour et le chantier de la grande fraternité, si, de la juste manière, il favorise en lui-même la rencontre des deux courants de la monade, afin qu'ils se manifestent et collaborent harmonieusement. La force du pouvoir, alliée à la grande, à la plus grande douceur. C'est en premier lieu sur un tel fondement que deviendront possibles la coopération et l'unité. La coopération et l'unité entre ceux dont les personnalités diffèrent par la forme en raison de la polarisation équivalente, mais inversée.